commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette édition de Commentaires et donc cette discussion hebdomadaire qui va porter naturellement sur la situation au Proche-Orient dans la foulée du voyage du Président de la République que nous allons bien sûr commenter avec l'aide de Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Les Voies de la Puissance, livre plus que jamais nécessaire compte tenu notamment des thèmes que l'on va aborder à l'occasion du voyage d'Emmanuel Macron, et que vous êtes aussi l'auteur d'un atlas géopolitique d'Israël qui est aux éditions Autrement. Donc, voyage présidentiel qui était au fond à la fois nécessaire et risqué, nécessaire parce que, Emmanuel Macron arrive après les autres, puisqu'il y a déjà eu Joe Biden, différents leaders européens, notamment le Premier ministre britannique, le chancelier allemand. D'une part, est risqué parce que la situation en France, déjà, est compliquée, avec ce qu'il faut bien appeler l'importation du conflit en France, au moins dans les esprits ou dans certains esprits. Il a tenu une ligne globalement équilibrée, qui est d'ailleurs approuvée dans un sondage que publie le Figaro, qui est approuvée dans la façon dont il a parlé d'Israël, la façon dont il a parlé des Palestiniens, et remis en circuit, si j'ose dire, l'issue des deux États est largement, très largement approuvée par les Français. Et en même temps, il n'y a guère que, je dirais, un Français sur quatre pour considérer qu'il peut quelque chose, que la France peut quelque chose, peut vraiment infléchir le cours des choses. Voilà sans doute pourquoi il s'est replié sur l'humanitaire en envoyant un bateau hôpital au large de Gaza. Frédéric Ancel.
Oui, moi je pense que beaucoup trop d'observateurs de la région ont ricané paresseusement. De toute façon, le ricanement est toujours une posture paresseuse quant à la France de manière générale et le voyage de Macron en particulier au Proche-Orient. Alors je rappellerai quelques faits. Un, ce voyage a été bien plus réussi que celui de Joe Biden. Joe Biden, il n'a vu personne d'autre que M. Netanyahou. C'est formidable, mais c'est quand même assez peu. Emmanuel Macron a joué sur plusieurs leviers. Deuxième point, dont dispose objectivement la France dans la région, ce qui en fait certainement derrière les États-Unis le pays du monde qui est le plus, j'allais dire, plus à même de tenter quelque chose. Hein, d'excellents rapports avec l'Égypte, d'excellents rapports avec la Jordanie, on l'a bien vu, d'excellents rapports avec à la fois Israël et l'autorité palestinienne, d'excellents rapports avec les Émirats arabes unis. C'est quand même pas mal dans la région, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, dernier point, c'est celui qui, parmi les chefs d'État et de gouvernement qui se sont succédés au chevet de manière très légitime d'ailleurs des Israéliens, c'est quand même celui qui a parlé, le seul, qui a parlé du jour d'après, en remettant effectivement au goût du jour la solution des deux États, qui est sans aucun doute la seule. Enfin, il n'y a pas d'alternative sérieuse à la solution des deux États. Et de ce point de vue-là, vous avez raison de dire que c'était à la fois nécessaire et risqué. Nécessaire, bien sûr. Risqué, je mettrai une toute petite nuance, risqué si il avait tenu compte, et heureusement il ne l'a pas fait, des extrémistes. Et dans ce genre de situation, je pense que le meilleur positionnement à tenir, c'est celui de la fermeté du positionnement classique de la France, qui n'a jamais changé, contrairement à ce que prétendent certains, qui est toujours favorable à la solution des deux États, en soutenant le droit non seulement à l'existence, mais à la sécurité de l'État d'Israël dans les frontières sûres et reconnues. Je n'invente rien, c'est la formule onusienne de 67. Hein. Et parallèlement, à côté de ça, en même temps, la création, enfin, d'un État palestinien souverain.
Jean-Claude.
Oui, non, je suis d'accord avec ce que dit Frédéric. Je ne dirais pas qu'il a fait mieux que Biden. Je dirais qu'il a fait aussi bien que Biden. Parce que Biden n'a pas besoin de rencontrer beaucoup de gens. C'est plutôt les gens qui ont besoin de rencontrer les États-Unis. Et il a réussi d'une certaine façon en dissociant parfaitement la cause palestinienne du Hamas. C'est-à-dire qu'en s'engageant contre le Hamas, même en faisant sourciller par son engagement et les propositions d'engagement en matière de renseignement, de surveillance à l'égard du Hamas, il prend position, il défend, il accepte au fond l'intervention d'Israël contre le Hamas et il préconise ce qui est le bon sens même, la solution des deux États, encore faudra-t-il sur cela trouver des interlocuteurs. Donc je trouve que c'est une réussite à la fois vis-à-vis de la politique intérieure française et vis-à-vis de la position de la France au Moyen-Orient.
Alors, quand on parle de position israélienne, on sait qu'on est dans l'attente de l'entrée de l'armée israélienne à Gaza. Et en même temps, on a droit depuis un certain nombre de jours à une campagne de bombardement très, très impressionnante. Donc la première chose qui vient à l'esprit, Frédéric Ancel, c'est que tout le monde, enfin au moins en Europe, se préoccupe d'essayer d'obtenir une pause humanitaire, de façon à soulager un petit peu la population de Gaza de cette campagne de bombardement qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts civiles. Donc est-ce que ça va, ça ne risque pas et ça n'a pas déjà commencé de renverser, j'allais dire, l'opinion internationale vis-à-vis d'Israël? Alors de dire Israël a le droit de se défendre, c'est une chose, et ensuite de constater que cette défense passe par une campagne de bombardement qui évidemment ne fait pas la différence entre les membres du Hamas et les civils, comment le pourrait-elle d'ailleurs? C'est là qu'il y a sans doute un problème, Frédéric Ancel, excusez-moi.
Oui, c'est même le problème piège, en quelque sorte, récurrent, non seulement pour Israël face au Hamas, qui lui, bien sûr, joue cette politique du pire, par définition. Peut-être même, d'ailleurs, un problème récurrent quant à ce qu'on appelle, souvent à tort, les guerres asymétriques. Et en particulier lorsqu'il y a d'un côté une démocratie et de l'autre un groupe islamiste radical. Je vous dirais que l'opinion publique, et je l'ai dit dans ma maintes reprises dans pas mal d'articles d'ouvrages et oralement bien sûr, l'opinion publique n'a pas de chasseurs-bombardiers. C'est moi, l'opinion publique, je ne sais pas très bien ce que c'est. Ça existe, mais le problème, c'est que on peut très difficilement établir de manière précise, pointue, à quel moment cette opinion publique ou un mouvement d'opinion publique dans un pays P, à un moment M, va avoir un effet, va constituer une variable principale de prise de décision d'un gouvernement. Voilà. Et les Israéliens, en l'occurrence, cette fois-ci, face à l'ampleur et à la nouvelle nature du massacre du 7 octobre, ont décidé, je le disais à votre antenne, sur votre antenne il y a quelques jours de ça, le ministre de la Défense israélien avait dit quelque chose de très nouveau, que je n'avais jamais entendu de ma vie dans la bouche d'un responsable israélien. Il a dit « À Gaza, nous allons abolir le temps ». Et l'abolition du temps, ça signifie pour le gouvernement poussé par une opinion surchauffée à ne pas céder aux injonctions internationales. Alors effectivement, il va y en avoir, et plus il y aura intervention au sol israélien, plus les images dures, et vous avez raison de rappeler que beaucoup de civils palestiniens subissent ce qui est en train de se passer, notamment les bombardements israéliens, plus ces images vont effectivement contribuer à... Alors retourner, je ne sais pas, en tout cas, à irriter une opinion, y compris d'ailleurs chez les Occidentaux. Mais cette fois-ci, la seule chose dont je puis me porter garant en tant que universitaire, connaissant un peu cette société, les Israéliens ne céderont pas. Le 7 octobre a modifié à leurs yeux un paradigme. Et je pense que de ce point de vue-là, les opinions, et tout à l'heure je crois que vous citiez un sondage qui est paru récemment, qui donnait plus de 81% des citoyens, enfin des sondés français, qui considéraient que le Hamas était bien une organisation terroriste et qu'Israël avait bien le droit de se défendre. Je veux dire par là, je le dis d'un mot, que cette fois, le soutien à Israël part de très haut. Donc effectivement, il y aura en France et en Europe et ailleurs, en Occident, peut-être même aux États-Unis, un affaiblissement au fil des semaines et peut-être des mois de ce soutien, mais on n'est jamais quand même parti d'aussi haut dans ce soutien à Israël.
Jean-Claude Casanova.
Oui, là, je crois qu'on touche un point important qui permet de configurer la situation de ce conflit. Parce que il y a eu dans le New York Times hier un article très remarquable par le correspondant du New York Times sur place d'analyse de ces bombardements. Alors, ces bombardements ont deux finalités. L'une, de la destruction des dirigeants du Hamas ou des hommes d'armes du Hamas et surtout de leurs équipements et de leurs armements. Et en même temps, ils ont aussi comme but la préparation d'interventions terrestres, puisque Israël a annoncé qu'il y aurait une intervention sur Terre, et pour la faire, il faut détruire des immeubles, détruire des positions sur lesquelles pourraient s'installer des tireurs, etc. Bien évidemment, et il semble que le volume des bombardements est tout à fait exceptionnel. Il dépasse tout ce qui s'est fait, et il est sans doute le plus important bombardement du 21e siècle. Mais il faut le considérer par rapport à ce que pense Israël de cette situation. Je pense qu'Israël considère que sa victoire sur le Hamas est vitale. elle doit se... Israël est en position de défaite subie, si vous voulez, et pour les futures négociations, pour la définition d'un statut équilibré vis-à-vis des Palestiniens, la création d'un État palestinien, il faut qu'Israël se remette en position de victoire militaire vis-à-vis du Hamas. Alors bien évidemment, ça va avoir, il y aura des dommages collatéraux, il y a toujours eu des dommages collatéraux. Je lisais récemment un livre d'un historien américain sur le débarquement et la campagne de Normandie. 70 000 Normands ont été tués, c'est-à-dire plus de Normands qu'ont été tués pendant toute la durée de la guerre, les Britanniques par les Allemands. Et la France n'a pas protesté, elle a considéré que c'était des dommages, c'est d'ailleurs à l'honneur de la France, de ne pas avoir fait le procès des bombardements organisés par le général Eisenhower. Et il y aura des dommages collatéraux, il y aura des morts, je pense qu'Israël en prend la responsabilité, je pense qu'il essaye aussi de réduire le nombre de morts en avertissant les populations. Alors, quel effet peut avoir ? Frédéric nous dit très justement, l'opinion, ça ne veut rien dire. Il a raison. Bien entendu, il y aura des manifestations, des campagnes humanitaires, etc., tout à fait légitimes. Toute mort, d'une certaine façon, toute mort d'un civil, toute mort de quelqu'un qui ne participe pas au conflit est injuste et dramatique. Et il faut essayer de les réduire. Mais il n'y a que deux pays dans lesquels, c'est pas l'opinion d'ailleurs, les gouvernements peuvent influer sur la politique. Il y a les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis pourraient être conduits, si l'opinion américaine désapprouvait, pourraient être conduits à freiner Israël. D'ailleurs, on voit dans la presse que les gens qui ne sont pas très favorables à Israël disent « Ah, mais l'Amérique va freiner, d'ailleurs l'Amérique est mécontente, d'ailleurs le Parti démocrate est de plus en plus hostile à Israël, etc. etc. » Ce sont ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas tout à fait la réalité. Je pense pas que l'opinion américaine abandonne Israël. Mais effectivement, les États-Unis pourrait gêner Israël, et je crois que la degré de détermination d'Israël est telle que même s'il y avait une pression américaine, ils poursuivaient leur politique. L'Iran peut aussi jouer un très grand rôle, mais lui, ça serait un rôle tout à fait différent. C'est-à-dire que l'Iran pourrait considérer que prendre parti, au fond, une partie complète pour le Hamas, et considérer qu'une défaite du Hamas n'est pas acceptable. Et si l'Iran pense cela, il déclencherait le Hezbollah. Mais je pense, comme Frédéric, que pour l'instant, l'Iran ne donne pas le sentiment qu'il va hausser le niveau de la guerre. Donc, les opinions politiques européennes, je crois qu'il faut les inviter à plus de réflexion et à ne pas s'engager de façon absurde dans l'humanitarisme est légitime. Les conclusions politiques hostiles à Israël de l'humanitarisme ne le sont pas.
Frédéric Ancel.
Oui, tout à fait d'accord. Je pense que, notamment, je rebondirai sur ce que vient de dire Jean-Claude sur l'Iran. L'Iran et la République islamique d'Iran est dirigée par des fanatiques à incandescence, mais ce ne sont pas des crétins. Et sur le plan de l'étude, de l'observation très fine des rapports de force, c'est même des champions. Au sens où Kafka aurait pu les appeler des champions de jeunes. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont jamais frontalement attaqué Israël. Non pas qu'ils n'en aient pas envie, c'est pas le problème. Mais ils savent que, en tout cas, ils savaient jusqu'à présent, et je pense qu'ils continuent de savoir, que ça leur coûterait manifestement beaucoup plus cher d'attaquer Israël que de ne pas le faire directement. Donc ils utilisent effectivement des instruments, dont évidemment aujourd'hui le Hamas, le Hezbollah, naturellement, puisque c'est même leur création de toute pièce et ex nihilo en 82. Mais regardez, même le Hezbollah, en réalité, l'Iran prend bien soin de ne pas envoyer au casse-pipe, pardonnez-moi l'expression, le Hezbollah, de ne pas envoyer cet instrument à la broyeuse israélienne, surtout pour défendre un Hamas qui, aujourd'hui, au regard de la détermination sans précédent, stupéfiante, de l'opinion et du gouvernement et de l'armée d'Israël, prendra de toute façon des coups très durs.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Ancel. Nous parlons donc du conflit au Proche-Orient. On évoquait tout à l'heure la campagne de bombardement de l'armée israélienne avant donc l'intervention terrestre, même s'il y a déjà eu d'ailleurs une ou deux incursions de chars israéliens dans la bande de Gaza. Simplement, il y a aussi le choc des images. Rappelons-nous l'émotion qu'a suscité, en tout cas chez nous, la campagne de bombardement russe contre les villes ukrainiennes. Ou bien si on remonte un peu plus loin, la façon dont Grozny avait été rasé par l'aviation russe, et ce qui provoquait évidemment immanquablement un mouvement de sympathie et de compassion et de souhait d'aider l'Ukraine face à ces campagnes de bombardement qui sont évidemment atroces. Et là, on a un peu la même chose à Gaza. Et donc, on s'aperçoit que ça renforce ou ça paraît ou c'est de nature, me semble-t-il, à renforcer quelque chose qui ressemble de plus en plus à l'isolement de l'Occident. Est-ce qu'il y a d'abord isolement de l'Occident dans cette période, Frédéric Ancel, à vos yeux? Et si oui, quels en sont les facteurs ou quels en sont les facteurs qui peuvent à la fois l'aggraver ou le limiter, Frédéric Ancel?
Alors écoutez, moi je vous répondrai de manière nuancée, mais quand même, c'est clair, je vous répondrai deux fois non. D'abord parce que l'Occident, alors n'a des contours extrêmement flous, mais y compris sur le plan géopolitique. Mais c'est quand même, à tout le moins, une quarantaine d'États sur 193. C'est quand même pas n'importe quoi. Et le fer de lance ou le cœur de cet Occident géopolitique, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, c'est quand même juste la seule grande alliance militaire mondiale aujourd'hui. Et c'est évidemment de très loin la plus puissante. Alors, isoler une quarantaine ou une cinquantaine d'États, c'est déjà un petit peu compliqué. Il faudrait qu'en face, il y ait un véritable bloc, ce qu'on appelle totalement à tort le Sud global. Et ce bloc, je constate qu'il n'existe pas. Le deuxième point, c'est la prétendue alliance entre Moscou et Pékin, qui est quand même fluctuante dans un certain nombre de cas de figure, qui est une alliance rhétorique, sémantique, dans une certaine mesure commerciale, absolument pas militaire, par exemple. Et d'autre part, je rappelle que au début de la crise, dès le massacre en fait perpétré par le Hamas le 7 octobre, plusieurs États de ce qu'on appelle le Sud ou le Sud global ont pris très clairement, c'était cause pour Israël, une position d'ailleurs qu'ils n'ont pas abandonnée à ce jour. Et je voudrais vous citer trois États qui ne sont quand même pas négligeables. L'Inde, vous m'excuserez du peu quand même, hein. Donc moi, on parle beaucoup de la position chinoise, d'ailleurs, et quand c'est en train de fluctuer d'ailleurs.
Le pays le plus peuplé aujourd'hui, oui.
Le plus peuplé du monde, doté d'une centaine de têtes nucléaires et qui est en train de monter en puissance sur le plan à la fois économique et militaire, dont le PIB vient de dépasser celui de la France. Écoutez, l'Inde, c'est quand même pas rien. Alors, on cite toujours la Chine, mais pas l'Inde. Les Émirats Arabes Unis, encore plus intéressant, signataires des accords d'Abraham, Émirats Arabes Unis, comme son nom l'indique, c'est un État arabe, qui est aujourd'hui littéralement, il n'y a pas d'autre terme, allié à Israël, et qui évidemment déteste les frères musulmans et le Hamas. Et enfin, plusieurs États d'Afrique subsaharienne, dont d'Afrique des Grands Lacs, je pense notamment au Rwanda, puissance militaire montante, et en Afrique de l'Ouest. Tout ça est quand même extraordinairement morcelé quand même, hein, en termes de sud global. Donc pour vous répondre concrètement, franchement je ne crois pas, alors une nuance à ma nuance, oui bien sûr, dans la majorité des opinions publiques, et notamment dans le monde arabo-musulman, on est très favorable aux Palestiniens, mais écoutez, c'est d'abord légitime, et c'est surtout d'une logique absolument implacable, puisque les Palestiniens eux-mêmes sont tous arabes et quasiment tous musulmans.
Oui, encore qu'on a quand même vu qu'il y a ce que l'on appelle la rue arabe qui a quand même conduit le roi de Jordanie à ne pas recevoir Joe Biden et à ne pas faire de conférence de presse commune avec Emmanuel Macron. Il a reçu Emmanuel Macron, ils ont discuté bien sûr, mais en même temps le roi n'a pas voulu se montrer à côté d'Emmanuel Macron. Le président Al-Sisi, le président égyptien, même chose, n'a pas reçu Joe Biden. Donc il y a cette présence de la rue dite arabe qui fait une pression très forte sur ces gouvernements.
Alors, cher Jean-Claude, vous avez raison de dire que ces deux chefs d'État n'ont pas reçu Joe Biden. En revanche, ils continuent à recevoir son argent, voyez-vous, et à recevoir chez eux les chasseurs-bombardiers américains tout de même. Hein. Donc, et ça, l'opinion publique n'est quand même pas stupide. Les gens le savent parfaitement, les Égyptiens, les Jordaniens et autres Qatariotes savent parfaitement qu'il y a sur leur sol des bases militaires américaines, c'est notamment le cas en Jordanie et concernant l'Égypte, on a affaire à un pays dont l'économie est littéralement tenue à bout de bras pour éviter chaque année la banqueroute, à la fois par les Saoudiens et bien sûr par les Américains, et les opinions le savent très bien.
Et puis il y a le cas turc, avec le revirement, si j'ose dire, d'Erdogan, qui est, au départ a posé sa candidature comme médiateur, et puis qui, ne voyant rien venir, a eu des paroles qui sont des paroles très surprenantes de la part du leader turc, qualifiant le Hamas non pas de mouvement terroriste, mais de mouvement de libération. Ça aussi, c'est un facteur important dans la région, Frédéric Ancel.
Enfin, propos surprenant, c'est vous qui le dites, Charles-Jean-Marie. Monsieur Erdogan, je rappelle simplement que c'est un militant frère musulman, que l'AKP au pouvoir depuis 2003 est directement issu des frères musulmans et est un parti très clairement islamiste. Trois, que la Turquie mène dans la région une politique extrêmement agressive sur pratiquement toutes ses frontières. Quand je dis agressive, en réalité une politique très clairement impérialiste. Et enfin quatre, que pour des raisons alors plus ou moins liées à sa propre opinion publique, mais ça c'est ce qu'on dit en période électorale, il n'y a plus de période électorale. Monsieur Erdogan, l'an dernier, a été réélu, donc il n'a même pas l'excuse de devoir en faire beaucoup en faveur du Hamas pour éviter une chute électorale. Donc je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui, par ailleurs, est quand même extrêmement aléatoire et fantasque. Et c'est peut-être son point commun avec Donald Trump, voyez-vous. C'est-à-dire que l'imprévisibilité de la politique étrangère de Monsieur Erdogan est quand même aujourd'hui un fait majeur au Moyen-Orient.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, plus la guerre durera, plus certaines opinions deviendront défavorables et critiques d'Israël. Le monde arabe, c'est incontestable. Le monde musulman, un peu moins. On entend l'Indonésie, le Pakistan, pour l'instant, ne donnent aucun sentiment de réaction vive. À l'intérieur même de l'Europe, il y a des inégalités d'attitude. L'Allemagne a une attitude extrêmement ferme. En revanche, l'Espagne est manifestement gênée. Et dans l'ensemble du monde, là où l'opinion est anti-américaine, comme la cause israélienne et la cause américaine sont en partie considérées comme identiques, dans une partie de l'Amérique latine, il y aura des critiques de plus en plus vives. Et puis, le sentiment assez naturel d'horreur de la guerre critiquera ceux qui sont les plus puissants dans la guerre. Donc, tout ce qui va se passer est prévisible. Il y a un point d'interrogation à avoir sur la Russie, parce que Poutine est embarrassé de l'affaire ukrainienne et il doit se demander comment utiliser le conflit au Moyen-Orient pour marquer des points dans l'affaire ukrainienne. Mais pour l'instant, on ne voit que son incertitude. Il n'y a aucun acte direct d'intervention. Donc je dirais que il faut supporter les conséquences de cette guerre. Les opinions, légitimement, se révolteront contre les sacrifices humains qui sont la conséquence de cette guerre.
Alors, question sur la Russie, Frédéric Ancel, d'une part, et puis d'autre part, je voudrais conclure aussi en évoquant les États-Unis, parce que l'attitude de Joe Biden, qui a été d'une très grande fermeté et de soutien à Israël, est-ce qu'elle est de nature à infléchir le cours de la campagne électorale qui a déjà commencé et qui montrait déjà un Joe Biden, malgré tout, en relative difficulté face à la perspective du retour de Donald Trump, Frédéric Ancel?
Alors, concernant la Russie, je serai en accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajoute que la politique russe aujourd'hui est une politique fondée sur la duplicité. Quand on n'a pas d'effet, quand on n'a pas de capacité, d'effet d'entraînement économique et financier, militaire, politique, comme on le voit avec une Russie franchement extrêmement affaiblie et finalement assez seule sur le plan militaire dans la crise ukrainienne, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de jouer tactiquement ici et là sur tout ce qu'on peut jouer, qui nous coûte pas trop cher et qui peut rapporter, surtout en termes de gêne face à nos adversaires européens et occidentaux. Bon, c'est exactement ce qui se passe ici. Poutine profite de la situation, accueille le Hamas et vitupère Israël, mais n'empêche pas les chasseurs-bombardiers israéliens de frapper l'aéroport de Damas. Je vous rappelle que Damas est la capitale d'un État qui est militairement allié à Moscou. Bon. Cette duplicité, au fond, très, 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 très faible, et en même temps, à mon avis, très toxique d'un point de vue géopolitique, elle s'est vue aussi avec l'Arménie, avec la chute des forces arméniennes au Karabakh, puisque la Russie était signataire d'un accord de défense militaire mutuelle avec l'Arménie pour 60 ans. Donc, vous apprécierez à quel point les Arméniens ont été gâtés par la fidélité de la parole russe. Maintenant, concernant les États-Unis, moi je pense que la campagne électorale va renforcer quelque part la position israélienne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, aucun candidat sérieux ne peut, face à une opinion publique qui, ça a été très bien rappelé tout à l'heure, et de toute façon très majoritairement, très massivement favorable à Israël, peut-être pas à son gouvernement aujourd'hui, encore que, enfin en tout cas à Israël, surtout après le choc du 7 octobre, aujourd'hui aucun candidat sérieux ne peut présenter un programme dans lequel tordra le bras à Netanyahou. Enfin, c'est pas sérieux. C'est vrai d'ailleurs au sein du Parti démocrate, même si la gauche du Parti démocrate a montré quand même des critiques beaucoup très très sévères ces dernières années vis-à-vis du gouvernement israélien, mais c'est encore plus vrai chez les Républicains qui vont jouer la surenchère.
Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur la situation au Proche-Orient dans la foulée du voyage du président de la République dans la région. Merci à Frédéric Ancel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Les voies de la puissance » qui est édité chez Odile Jacob et d'un atlas géopolitique d'Israël édité chez Autrement. Merci donc de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous remercions nos auditrices et nos auditeurs de nous être fidèles et nous leur donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.